France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's in the house.
Radio Rosana Piparis.
Produce ghetto in la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
Un jour dans le monde, c'est un jour avec Olivier Dubois, ce soir, ancien otage au Mali.
Je ne t'oublie pas, mon fils. Ce que tu traverses est difficile à vivre. Mais chaque jour, je pense et j'espère que c'est demain qu'on m'annoncera ta liberté. Continue à être fort mentalement et physiquement. Tiens bon, je t'embrasse, mon fils.
Bonsoir Olivier Dubois.
Bonsoir Fabienne.
Merci beaucoup d'être avec nous. On a choisi de diffuser cet extrait des messages diffusés sur RFI que vous avez pu entendre tout au long de votre détention au Mali. On y reviendra, là c'est votre mère et c'est le jour de votre anniversaire d'ailleurs, en août 2021. Et on dira combien ces messages et cette radio aussi d'ailleurs ont été importants pour vous. Vous avez été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, au nord du Mali. Vous êtes journaliste pour Le Point et pour Libération. Vous habitiez à Bamako. Vous alliez rencontrer un chef d'Al-Qaïda. Vous n'êtes revenu que 711 jours plus tard. C'est ce que vous racontez dans Prisonnier du désert, 711 jours aux mains d'Al-Qaïda, aux éditions Michel Lafon. Il y a plein de choses qui frappent en vous lisant Olivier Dubois. Moi, la première chose qui m'a frappée, c'est jusqu'à quel point vous avez une précision des lieux, des gens, des noms, du terrain, du détail. Alors, on y reviendra. Vous aviez un papier, vous aviez des crayons, mais enfin oui. Quand même. Est-ce qu'il a fallu convoquer ces souvenirs? Est-ce que vous les avez portés sur votre dos jusqu'au moment de l'écriture?
Déjà, au niveau des dates, on est vite désorienté, on ne sait pas où on est. Et très vite, j'ai compris qu'il fallait que je me répète chaque matin en me levant les dates pour savoir le jour où on était. Et puis après, moi, j'essayais quand même de chroniquer ma vie de captif. Donc évidemment que les événements avaient leur importance, les dates aussi, les personnes. Donc ça reste gravé quand même dans la mémoire. Et puis il y avait mes notes. Et ces notes, elles ont été quand même un matériel très important pour pouvoir rédiger ce livre et être précis.
Et vous le dites, effectivement, vous avez la mémoire des dates. Il y a ce passage incroyable où l'un de vos geôliers vous dit « Alors ça y est, t'as perdu la notion du temps ?» Et vous répondez pas du tout « On est telle date ?» Et vous l'avez scotché ce jour-là.
Oui, parce qu'ils sont quasiment sûrs. Bah, ils voient quand même l'état dans lequel on est apeuré, on est stressé, on sait pas comment se comporter. Ils jouent un peu de ça. Et puis moi, j'étais comme ça à l'époque. Ils me posent cette question et pour le coup, c'est la seule chose que je savais à peu près à la date. Parce qu'à partir du 8 avril 2021, ma vie s'arrête et un chronomètre qui se met en... Ouais, une sorte de pendule, un chronomètre qui se met en route et je fais attention aux dates. Ouais.
Est-ce que c'est ça qui vous a évité de devenir dingue, en fait, Olivier Dubois? C'est cette maîtrise-là, les tentatives d'apprivoiser, y compris votre environnement, ne jamais lâcher votre corps aussi. Vous pratiquez un art martial chinois qui s'appelle le baga.
Le bagua.
Le bagua, pardon.
C'est vraiment peu connu que c'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Et vous vous y tenez, et dès le début, d'ailleurs, hein, dès le début de la détention.
Ouais, dans les trois premiers jours. En fait, je suis la plupart du temps les trois premiers jours sur une natte et je ne fais rien. Mmh. Et je suis envahi par la peur, le stress, et puis toutes leurs actions, je les regarde comme si c'était une action qui va me faire passer de vie à trépas. Et je me dis que c'est pas possible, je peux pas me laisser basculer, je peux pas tomber comme ça. Et le sport, c'est vrai que pour le coup, ça forge un mental, ça forge le corps, ça occupe aussi. Ouais. Et s'occuper, c'est important dans ces situations-là.
Ils vous regardent assez bizarrement d'ailleurs quand vous faites vos exercices,
ouais,
y compris quand vous
bizarre.
Êtes entravé d'ailleurs. Ouais.
C'est un sport où il y a une stratégie circulaire, on bouge en cercle, donc il y a une sorte de déplacement circulaire comme ça. Et c'est très spécial, donc ils se demandaient ce que je faisais. Et moi, je prétextais que c'était pour mes genoux, que c'était pour ma santé, que j'avais peur justement qu'ils m'interdisent de le faire.
Alors, vous gardez le mental, vous gardez le sport, et puis alors, ce qui est scotchant aussi, c'est que vous êtes journaliste jusqu'au bout des ongles quand même. Vous allez le rester d'ailleurs pendant 711 jours. L'un de vos premiers geôliers s'appelle Alassane, et vous allez le chercher. Vous allez le chercher tout de suite, vous lui posez des questions, ouais. Vous lui réclamez une interview. Enfin, je veux dire, vous êtes au fin fond du Mali, vous lui réclamez une interview, le pire c'est que vous l'obtenez, vous lui posez des questions sur le groupe, sur qui il est, sur ce qu'ils font, vous lui posez des questions sur Guylaine Dupont et Charles Verlon, les deux journalistes de
Claude Verlon.
Et Claude Verlon, pardon, qui sont morts 10 ans avant.
Exactement, parce que ce sont des journalistes qui étaient dans la région de Kidal comme moi, et eux par contre sont morts, et j'ai peur que ça m'arrive. Mmh. Donc il faut comprendre pourquoi ils ont été tués, quelle était leur erreur, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont provoqué. Et j'ai l'impression qu'en l'apprenant, je pourrais peut-être me préserver de ce funeste destin. Et donc j'essaie de l'interroger là-dessus, mais c'est le seul sujet sur lequel il ne veut pas parler. Il répondra à d'autres questions par ailleurs. Oui, ouais, tout à fait.
J'hésite à révéler ce que je fais, ce que vous allez apprendre bien plus tard à la fin.
Ne le révélons pas alors, laissons les gens lire.
Ouais. Alors ne révélons pas, mais quand même, j'invite vraiment les gens à vous lire parce que D'abord, c'est très très bien écrit, il y a un vrai suspense. Merci. Et on va le redécouvrir Alassane à la fin du livre, oui. Savoir qui il était réellement et ce qu'il a réellement fait. C'est un vrai coup de théâtre et c'est vraiment, vraiment scotchant. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il dit « Ok, posez-moi des questions ».
Alors, je me suis beaucoup posé la question. En tout cas, il y avait une sorte de compréhension de ce que je voulais faire. Et il pensait, je pense, que son organisation, donc la branche sahélienne d'Al-Qaïda, ouais, devait plus communiquer, je pense. Et je lui donnais, moi, pour le pousser, pour le provoquer un petit peu, j'ai dit, mais regarde les talibans, ils accueillent des journalistes, il y a plusieurs des interviews, il y a eu des livres, où vous ne dites rien, mais en même temps, quand on vous traite de terroriste, vous êtes contre et vous voulez, voilà, vous défendre. Et ben, c'est l'occasion, parlez-moi, parlons-en. Et je crois que lui, là, il a compris ça.
Et il se défend même de ne pas être Daesh, d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, Al-Qaïda et Daesh sont en rivalité au Mali. Et il se défend en disant « on a le même but, à la fin, la charia, au fond, c'est ce qu'on veut, mais nous, on a des méthodes qui sont différentes de celles de Daesh ».
Oui, alors la différence...
Il a besoin de vous le dire, ça, visiblement.
Exactement, la différence pour eux, c'est les méthodes. Oui. Et c'est marrant, pour eux, ce sont eux les terroristes, c'est Daesh les terroristes, parce qu'ils tuent des musulmans. Je crois que la principale différence qu'il y a, qui existe, et qu'il m'explique entre Daesh et le JNIM, c'est que justement, ils tuent des musulmans, tandis que le JNIM s'en prend à des païens. Et s'il doit tuer des musulmans, c'est vraiment pour défendre l'islam. Alors c'est très ténu, hein, d'apprécier cette différence, mais pour eux ça fait tout.
Mais est-ce que vous vous dites parfois que si c'est Daesh qui vous avait pris, vous seriez mort aujourd'hui ?
Ah oui, oui, bien sûr, je me le suis dit. Bah, il y avait cette réputation, puis on voyait des vidéos d'exécutions, d'exactions, ce genre de choses-là. D'après moi, ça aurait été autrement, hein. Oui, certainement. Hein.
Alors je disais que vous êtes gonflé parce que, effectivement, vous allez les chercher, vous leur posez des questions, vous faites votre sport devant eux, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, vous êtes gonflé surtout parce que vous cherchez à partir tout le temps. Vous avez compté le nombre de tentatives d'évasion ?
Oui, c'est apparu d'ailleurs dans une photo de mes notes où je le note, parce qu'il y a eu 4 tentatives d'évasion, une sortie, ce que j'appelle signe, parce que je faisais attention, si jamais ils pouvaient prendre mes notes, il ne fallait pas qu'ils puissent lire tentatives d'évasion.
T'E comme tentative
voilà.
D'évasion.
Ouais. C'est simple, mais voilà. Ils parlent de Tamashek, donc je pensais que ça allait passer. J'ai fait une sortie, en tout il y a 6 sorties, dont une qui est faite pour des signalisations, enfin avec une lampe de poche, à l'époque j'en ai une, il y a des drones
qui passent. Parce qu'il y a des drones tout le temps, et c'est ça qui est dingue,
souvent.
Parce qu'on se dit, mais comment est-ce qu'ils ne sont pas tombés sur vous ? Enfin, je veux dire, il y a 2 pauvres tentes et des drones, à ce moment-là, Barkhane est encore là, vraiment. Il y a des drones tout le temps et partout.
Pas tout le temps et partout, mais il y en a souvent qui survolent le camp. On a, comme vous le dites, 2 tentes, on est au milieu des dunes, et puis surtout, vous avez des prisonniers qui, comme à Guantanamo, ont des chaînes autour du cou, des poignets, des pieds. Ça se voit quand même. Enfin, c'est assez singulier dans des dunes de sable. Et pourtant, alors peut-être qu'on a été vu, qu'il n'y a pas eu d'intervention, je ne sais pas. Mais on s'est souvent posé la question avec Reert, mon co-détenu, si je peux dire ça.
Alors, on y viendra effectivement parce que vous le rencontrez plus tard, parce que vous allez beaucoup, beaucoup bouger d'emplacement. Mais enfin, quand même, sur les évasions, vous échouez parce que vous êtes en plein désert. Il y a des moments où vous faites marche arrière en disant je vais me planter, j'ai rien à boire, rien à manger, je fais marche arrière. Vous allez chercher une clé de 13 pour essayer de défaire vos liens, parce que parfois vous êtes attaché, parfois non, parfois la nuit, parfois le jour.
Ouais, ça dépend.
Enfin, vous êtes quand même sacrément gonflé, parce que le coup de la clé de 13, par exemple, on va la chercher, puis subitement vous avez la trouille en vous disant ils vont se rendre compte qu'elle n'est pas là, vous allez la remettre. Enfin, est-ce qu'avec le recul, vous vous dites j'ai été dingue, quoi ?
Bah, quand j'y repense maintenant, ça me fait froid dans le dos.
Ouais.
Après, je peux évidemment réintégrer ma peau de captif. Et c'était, si vous voulez, ces actions étaient possibles parce qu'il y avait une sorte d'eldorado derrière. C'était me retrouver une semaine après dans mon salon, avec les miens, avec ma famille, etc. Et ça dépassait les difficultés, les obstacles pour y arriver. Ça faisait rêver, donc il fallait atteindre ça.
Après, je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième, parce que moi j'ai perdu le fil un peu des tentatives d'évasion.
Il y en a quatre.
Voilà, vous avez cette phrase incroyable, vous êtes au milieu des dunes et vous dites « Le panorama qui s'offre à moi est à couper le souffle. Le désert s'étend à perte de vue, une mer de sable et de rochers aux teintes ocre et rouille. L'horizon tremble sous la chaleur en créant des mirages ondulants et pendant un instant, je reste là, ébloui par la beauté sauvage de ce paysage. »
J'ai souvent été ébloui par le décor de ma captivité, c'est vrai. La région de Kidal, c'est beau, c'est des grands déserts, c'est des encaissements de rocs monumentaux. Et c'est vrai qu'on est saisi par ça, et en même temps, c'est notre prison. Donc c'est très spécial.
Ouais.
On est dans une belle prison, mais une prison terrible, parce qu'il n'y a pas d'échappatoire.
Et c'est horrible de se dire, au fond, la guerre, la prison, l'enfermement a quelque chose d'esthétique.
Ouais.
En fait. Et c'est aussi ce que vous ne pouvez pas vous empêcher de voir, parce qu'autour de vous, effectivement, c'est somptueux.
Oui, puis ça sent la liberté tout autour. Enfin, je veux dire, vous pouvez marcher, puis marcher, voilà, jusqu'à l'horizon. Mais vous marcherez longtemps jusqu'à l'horizon et sous un soleil de plomb, et vous tomberez au bout d'un moment. Les murs, il n'y a pas de murs, mais voilà, c'est une prison, ça c'est sûr.
Il n'y a pas de murs et il n'y a pas toujours de chaînes, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils vous disent, tu as le droit de te balader 30 minutes, mais pas plus de 30 minutes. C'est aussi assez étonnant comme manière, en gros, de...
Je mettrais du temps à le comprendre, ça.
Ouais.
Mais c'est à 30 minutes. Ils vous voient passer. Si au bout de 30 minutes, vous êtes parvenu, ils ont parvu, et là, ils commencent à s'activer. Et moi, je comprendrais en essayant de repousser plus loin cette barrière-là, en fait.
Et vous êtes passé à 2 doigts, quand même, à plusieurs reprises, vous êtes vraiment passé à 2 doigts.
Oui, oui, tout à fait. Mais c'était nécessaire, parce que c'est dans la préparation des évasions, et je voulais voir un petit peu jusqu'où aller, quelle était leur réactivité. Et je me rends compte quand même, il est possible, ils dorment pas mal, ils sont assez oisifs sur le camp, il est possible de faire quelque chose, et je le ferai.
Vous lisez un Coran aussi en français, ouais. Olivier Dubois, c'est eux qui vous le donnent. Ouais. Est-ce que vous y avez puisé des choses ?
Alors, moi, ce que je voulais puiser en lisant, d'abord, il y a deux phases. La première fois que je lis le Coran, c'est eux qui me le donnent, mm-hmm. et la seconde fois, c'est moi qui le demande. Quand je le demande, c'est vraiment pour comprendre ce livre sacré qu'ils révèrent et qui est un peu leur code de conduite, enfin, leur code de vie. Et oui, donc j'y puise énormément de choses, énormément de renseignements, puis ça suscite aussi beaucoup de questions, donc beaucoup de débats. Et moi, ce qui m'a passionné particulièrement dans le Coran, c'est pas forcément les textes, mais tout ce qui est autour, c'est-à-dire la biographie du prophète et le contexte sociopolitique, géographique de cette région d'Arabie pré-islamique. Ouais.
Vous l'avez gardé ou pas ?
Non, j'ai pu emmener qu'une couverture et une bouteille d'eau quand on est venu me chercher pour la libération.
Et vos notes que vous aviez planquées donc,
et les notes que j'avais planquées, évidemment.
J'en reviens encore en juste une seconde, ils essayent beaucoup de vous convertir. Il y a même un moment, ils vous font répéter des phrases en arabe et vous vous rendez compte, vous vous arrêtez au milieu, ou là, je suis en train de prononcer la phrase...
La fameuse qui lie à Dieu, en fait.
Ouais. Est-ce que vous pensez que... parce que vous avez cette interrogation dans le livre, est-ce que votre détention aurait été différente si vous aviez dit « Ok, je me convertis »
C'est ce qu'ils me disent, en tout cas. Ils me disent que ça va être différent, et surtout qu'il y a la liberté au bout, tu te convertis, on n'a plus de raison de te garder, tu es libre.
Ce qui est sûrement faux d'ailleurs.
C'est pas totalement vrai, parce qu'il y a des tas d'otages.
Sophie Pétronin, et pourtant, resté très longtemps.
Ça a changé, puis il y a eu de l'argent même contre, enfin peut-être pas sur le cas de Sophie Pétronin pour le coup. Voilà, j'y croyais pas, et puis il était impossible pour moi de me convertir en ayant une chaîne à la cheville et en étant captif. Mm. Donc non.
Alors après, il y a des passages, enfin c'est presque drôle et c'est tellement génial, vous faites des donuts.
Oui.
Non mais sérieusement, enfin je veux dire, il faut que les gens s'imaginent qu'on est encore une fois dans le désert malien, au milieu des dunes, pour vous nourrir, parce qu'ils finissent par dire « fais ta cuisine tout seul si t'as
envie, parce que c'est demande pas très aussi bon instamment, ce que vous mangez, voilà. »
Et vous fabriquez des donuts, enfin je veux dire, il faut y penser quand même.
En fait, c'est toujours le même état d'esprit, s'occuper le cerveau, se donner des défis et relever ces défis, avoir des victoires, et ça occupe, et on oublie un peu la captivité, on oublie un peu sa situation, et les donuts, on avait de la levure, on avait de la farine, de la poudre de lait, allez c'est parti,
Et voilà, et vous avez fait des trous et tout.
Voilà, exactement, avec des bouchons de bouteilles, et ça fait travailler, pendant 4 heures ça vous occupe, et puis après c'est la nuit, hein, c'est un jour, une nuit.
Avec les fameux donuts, vous les faites avec un autre prisonnier qui est sud-africain, qui s'appelle Gert, qui est là depuis 4 ans.
4 ans,
lorsque vous arrivez.
C'était ça, 4 ans, il aura fait 6 ans.
Il est assez déprimé, vous allez lui remonter le moral, lui dire mais écris à ta famille, d'ailleurs ça marche parce qu'il reçoit une lettre en retour. Vous ne parlez jamais de vos moments de déprime, Olivier Dubois, vous en avez forcément eu.
Oui, j'en ai eu.
Est-ce que ça veut dire que quoi, vous les avez rangés dans une autre case en fait ?
Ah oui, parce que je suis quelqu'un quand même d'assez pudique. Ça a été compliqué d'écrire ce livre et d'y ajouter les émotions, les ressentis, les peurs, se mettre à nu par rapport à ce qui s'est passé. J'ai l'impression d'en avoir dévoilé beaucoup, mais on me fait la remarque, peut-être pas assez. C'est pas assez,
c'est juste que c'est étonnant. On a l'impression que vous êtes proactif tout le temps, en fait.
Ah, j'ai essayé de l'être. Pour le coup, oui. Et c'est ça qui, c'est ça que j'ai peut-être gardé en mémoire. Mais il y a évidemment des moments sous la tente ou la nuit où ça allait pas du tout, quoi. Mais quand le soleil se lève et quand il faut faire face à une nouvelle journée, il faut être debout, donc ça doit passer en arrière.
Pendant le temps de votre détention, Olivier Dubois, il s'est passé plein de choses au Mali, et notamment Barkhane est parti, toute la situation en fait a changé. D'abord, est-ce que vous le percevez, puisque vous avez la radio, il vous en donne une, vous écoutez RFI, est-ce que vous le percevez, est-ce que vous vous dites ma situation, vous le dites d'ailleurs, désormais je suis tout seul,
en fait,
c'est ça le
15 août 2022, c'est une date qui va rester gravée, c'est le départ, le dernier tour de clé, comme ils disent, ou le dernier véhicule qui franchit la frontière en direction du Niger ou du Burkina. Et pour moi, c'est un rideau qui tombe, c'est une porte qui se referme, je suis de l'autre côté de la porte et je sais que je suis seul et qu'il va falloir que je sois créatif, que j'arrive à trouver quelque chose pour m'en sortir. Mm-hmm. Je ne vois pas comment, dans le climat de relations détériorées qu'il y a entre la France et le Mali, on va pouvoir me sortir de là.
Vous disiez que vous l'avez entendu à la radio, je voudrais qu'on souligne, on a entendu votre mère tout à l'heure qui a envoyé des messages, l'importance d'RFI, de cette radio, des messages, votre femme, vos enfants, vos parents, etc. Vous le savez, vous les écoutez.
Ah oui, c'est un rendez-vous. C'est chaque 8 du mois et c'est un véritable rendez-vous qui me permet de me recharger totalement. C'est un distributeur d'espoir, en fait. Et c'est très court, hein. Il y avait 4-5 messages, donc 5 minutes, mais c'est 5 minutes qui vous galvanisent, qui vous remplissent et qui vous permettent de durer jusqu'au prochain 8 du mois. C'est exactement ça.
Est-ce que vous avez des nouvelles de Gert, votre ami sud-africain ? Est-ce que dans ces cas-là, on devient ami pour la vie, en fait ? Ou est-ce que chacun essaye de tellement recoller à sa vie qu'on lâche les gens, au fond, qu'on a croisés ?
Non, on s'est revus, moi et Gert, en début de l'année dernière, début de 2024. Il fallait qu'on se revoie. On en avait tellement parlé quand on était là-bas. Et on a rééchangé sur tout ce qui nous était arrivé, avec d'autres éclairages, évidemment, avec un certain recul. Mais c'est quelqu'un qui est dans ma vie. Enfin, on a vécu quelque chose quand même d'assez unique. Il n'a pas d'autre expérience, et moi non plus. plus avec une autre personne en captivité, quoi.
Et Olivier Dubois, une dernière question. Vous savez désormais que c'est votre chauffeur qui vous a trahi, non ? Trahi pour une voiture, d'ailleurs. À la fin, l'épilogue, c'est ça ?
Plus qu'une voiture, selon moi, mais j'ai la forte conviction, oui, qu'il m'a trahi. Ouais. On n'a pas pu échanger encore, on n'a pas échangé. Je ne sais pas si on le fera. Mais oui, j'en suis quasiment certain.
Vous l'avez cherché ? Vous avez
non, pas pour le moment. Mais à un moment, j'aurais besoin de répondre à des questions, certainement. Mais oui, j'ai la forte conviction qu'il y est pour quelque chose, ça, oui.
En tout cas, votre bouquin est passionnant, Olivier Dubois. Ça s'appelle « Prisonnier du désert, 711 jours aux mains d'Al-Qaïda » et c'est publié chez Michel Lafon. Merci mille fois.
Merci Fabienne.
À très bientôt. La suite, ce soir, ça se passe en Syrie, où les Syriens essaient d'obtenir réparation des crimes de Bachar, mais vous verrez pourquoi ça n'est pas si simple. Pour aller jusqu'à 19h, il y a Kevin Dufraîche sous les radars.
En Roumanie, un braquage d'œuvres d'art au cœur de la campagne présidentielle.
Le Monde à 18h50, c'est Franck Madvon. Bonsoir Franck.
Salut Fabienne, bonsoir à tous. Poutine se montre prêt à négocier sur l'Ukraine et se voit bien sûr en position de force.
Et puis le cinéma en VO, c'est Corinne Pellissier. Bonsoir Corinne.
Bonsoir. La 32e édition du Festival de Gérardmer avec un focus sur une toute nouvelle tendance, la vie aurore.
Allez, à tout de suite, les amis, le tour de la planète continue. Il passe par un endroit familier. Nous allons du côté de Perpignan, en anglais dans le texte, avec les Liminianas, Prisoner of Beauty. C'est en playlist sur Inter. Nous partons donc en Syrie ce soir dans le reportage d'Un jour dans le monde. Maintenant que le pays essaye d'avancer, une question reste pour des centaines de milliers de familles. Comment obtenir justice pour les crimes de Bachar el-Assad ? Comment obtenir réparation et tourner la page de ces dizaines de milliers de disparus depuis le début de la révolution en 2011 qui ne seront sans doute jamais retrouvés ? Le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, estime qu'il sera impossible d'apporter une réponse à chacun. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU était la semaine dernière en Syrie, c'est une première dans le pays. Il a dit « La justice transitionnelle est cruciale, notamment pour éviter vengeance et règlement de compte, avant d'appeler une enquête complète sur tous les crimes de l'ancien régime. Ce sera compliqué. Bachar a tout fait pour effacer les traces de ses méfaits, par exemple en dissimulant des fosses communes. Et le reste, c'est Martin Troadec et Marie-Pierre Véro qui racontent.
C'est une terre désolée, emplie de pierres dans les environs de Koutaïfé, entre Damas et Homs. En 2013, raconte le cher Abdelkader, l'armée syrienne a entrepris de la transformer en une vaste fosse commune.
Les premiers corps ont été enterrés ici, environ 40 corps recouverts de linceuls. L'armée a saisi les terres des fermiers pour en faire des fosses communes. Cette zone est éloignée des habitations pour éviter les témoins et sous des lignes à haute tension, afin que personne n'ait l'idée de venir creuser pour construire un bâtiment.
Tout est pensé pour dissimuler les crimes.
Puis, ils ont construit ces hauts murs. Ils ont fait une base aérienne pour éviter les regards. Vous voyez ces véhicules russes ? Ils ont des brouilleurs pour compliquer la prise de vue satellite.
Un sinistre balai commence alors.
Chaque semaine, trois camions réfrigérés amenaient des corps. Les gens autour pouvaient sentir l'odeur de corps en décomposition. Chaque camion transportait 100, 150 corps.
Aucune trace de ces victimes aujourd'hui. Seuls quelques os ont pu être retrouvés, car l'armée de Bachar al-Assad a veillé à nettoyer la zone avec des excavatrices qui broient les squelettes.
Puis, à partir de 2017 environ, les fermiers ont pu voir de gros camions qui entraient dans la base et emportaient la terre mélangée avec tous les os.
Ils parlent de dizaines de milliers de corps en miettes et évoquent la difficulté de leur donner une identité. Mais les fermiers savent dans quelle zone la terre a été déversée, ajoute le Cher. Les anciens soutiens du régime peuvent aussi donner de précieuses indications. Le temps presse. Les preuves disparaissent. Il faudrait faire appel d'urgence à la communauté internationale, demande-t-il, pour qu'elle analyse les échantillons, pour retrouver la trace des crimes de Bachar, afin de le traduire en justice et d'apporter des réponses aux familles de disparus, comme celle d'Amani.
Pour les familles, quand on a un disparu, si vous ne l'avez pas vu enterré, vous aurez toujours de l'espoir jusqu'à la fin des temps. On sait que durant la période de la Révolution, 300 000 personnes ont été arrêtées. Combien ont été libérées? Où sont les autres? Dans les fosses communes. Et maintenant que l'on a trouvé ces fosses communes, quelle sera la prochaine étape pour les familles? Ne devraient-elles pas au moins savoir qui sont les gens dans ces fosses?
Son frère a été enlevé au début de la Révolution syrienne, en novembre 2013. En soudoyant l'armée à tous les niveaux, plusieurs milliers de dollars au total, elle a pu retracer son parcours de prison en prison jusqu'à la branche Palestine, de sinistre réputation, puis Seydnaya, cet abattoir humain à Damas. Dès la fuite de Bachar al-Assad, elle s'y précipite, comme tant d'autres familles cherchant un proche.
Quand nous sommes arrivés à Seydnaya, nous avons vu que les portes étaient ouvertes. Ils auraient au moins pu les faire garder par des soldats pour ne pas laisser les gens entrer, pour conserver les preuves. On sait que les caméras, les disques durs ont été emportés, des documents ont été volés, des archives brûlées. On l'a vu. Quand je l'ai dit aux soldats, ils m'ont expliqué que leur arrivée à Damas avait été trop rapide.
Trop rapide pour avoir les moyens de sécuriser les lieux, explique Amani. Ils ne s'attendaient pas à arriver si vite dans la capitale et ne disposaient pas des moyens nécessaires. Aujourd'hui, Seydnaya est gardée. Mais là, comme dans tous les lieux où les prisonniers d'Assad ont été assassinés, c'est un travail titanesque qui s'annonce si la vérité doit être faite. C'est pourtant la condition pour que la douleur de dizaines de milliers de familles syriennes trouve un apaisement et qu'elles puissent imaginer se reconstruire dans la nouvelle Syrie.
Marie-Pierre Véraud et Martin Troadec pour le reportage. Merci à vous deux. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne. Kevin, nous sommes d'abord en Roumanie où un braquage fait la une.
Un vol d'œuvres d'art spectaculaire qui a eu lieu aux Pays-Bas samedi. Les voleurs ont utilisé des explosifs pour pénétrer dans le musée de Drenthe qui accueille en ce moment 500 pièces prêtées par la Roumanie. Trois bracelets et un casque en or datant de l'Antiquité ont été volés, d'une valeur inestimable d'après les autorités roumaines. Et depuis, l'affaire prend un tour très politique. Hier, le directeur du musée national de Bucarest qui a prêté les œuvres a été limogé. Le Premier ministre roumain dit se réserver le droit de demander des dommages-intérêts aux Pays-Bas qui, de leur côté, assurent mettre beaucoup de moyens en œuvre pour retrouver les voleurs. Le tout en pleine campagne électorale en Roumanie puisque, souvenez-vous, le premier tour de la présidentielle a été annulé en raison de soupçons d'ingérence étrangère. Premier tour qui avait vu l'extrême droite arriver en tête avec un candidat, Călin Georgescu, pourtant inconnu, qui saute sur ce vol pour faire faire campagne, estimant qu'il s'agit, je cite, d'une attaque contre l'identité roumaine. Il en profite pour réclamer des démissions au sein du gouvernement social-démocrate.
Et nous voici en Thaïlande, où Bangkok respire très mal.
Oui, la capitale sous un brouillard de pollution. Beaucoup des 11 millions d'habitants qui sortent avec des masques, images devenues malheureusement trop fréquentes. Ce week-end, le niveau de particules fines dépassait plus de 7 fois le seuil toléré par l'OMS à Bangkok. Alors pour limiter la circulation et donc la pollution, les transports en commun sont gratuits jusqu'à la fin de la semaine. Mais la mesure est moquée sur place, notamment par les médias thaïlandais. Plusieurs dénoncent une mesure coûteuse, 4 millions d'euros environ, alors qu'elle n'aurait aucun impact sur la pollution de l'air et ne s'attaque pas aux causes profondes de cette pollution. Le Bangkok Post, par exemple, estime qu'il n'est pas réaliste de penser que les automobilistes vont laisser leur voiture au garage parce que la couverture du réseau de transport est bien trop limitée. Mais le ministère des Transports thaïlandais assure que les premières données montrent une réduction importante du trafic sur les routes et envisage de prolonger la gratuité.
Et puis nous sommes au Mexique avec une comédie musicale pas comme les autres.
Et oui, puisqu'il s'agit d'une parodie d'Emilia Pérez, le film de Jaco Diar en tête des nominations pour les Oscars. L'histoire d'une chef de cartel mexicain qui mène une transition de genre, long métrage très critiqué au Mexique. Beaucoup reprochent aux réalisateurs français de parler trop légèrement des tragédies liées au trafic de drogue dans le pays, de véhiculer des stéréotypes et puis de ne pas avoir tourné le film au Mexique mais en studio à Paris. Alors une réalisatrice mexicaine a sorti samedi Johan Sacrebleu, une parodie d'une demi-heure sur YouTube. Le pitch, une guerre des croissants entre deux boulangeries parisiennes, des personnages tous en marinière avec des moustaches. Disons que c'est de bonne guerre, tous ces clichés. Et ça marche bien, 1,5 million de vues en 4 jours seulement. Alors Jaco Diar s'est excusé d'avoir blessé des spectateurs lors de la première de son film au Mexique, expliquant quand même qu'Emilia Pérez est un opéra qui ne prétend pas être réaliste. Après tout, tout ça, ce n'est que du cinéma, Fabien.
Ouais, merci beaucoup, Kevin. À demain, vous partez en passant par les USA avec Bill Withers. Dans cette chanson, figurez-vous qu'il parle de sa grand-mère qui est née esclave. Il raconte qu'il aimait bien aller à l'église avec elle, voir les gens chanter. Ce sont les mains de sa grand-mère qu'il chante, Grandma's Hands, sur France Inter.
Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hands played a tambourine so well. Grandma's hands used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast, might fall on a piece of glass, might be snakes there in that grass. Grandma's hand, Grandma's hand, soothe the local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her, she'd say, baby, grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, grandma's hand. Grandma's hand used to hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in a handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy, what you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma's hand.
Qui c'était le monsieur qui chantait ? C'était Bill Withers. Grandma's Hands. Ça date de 71 sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h50, c'est vous, Franck Madvon. How dare you?
Fabienne Saint-Ès. Le 18-20.
Franck Vladimir Poutine se dit prêt à discuter avec l'Ukraine, même s'il précise qu'il ne parlera pas directement à Zelensky. Le président russe fait un pas de plus vers des pourparlers. Et ce soir, vous nous dites pourquoi Poutine est prêt à négocier.
Vladimir Poutine s'exprime peu et surtout, il dit souvent la même chose. Il faut donc le suivre de près pour identifier les changements de pied, les nouveaux messages qu'il cherche à faire passer. Hier, le président russe a parlé pour la première fois des modalités pratiques d'éventuels pourparlers sur l'Ukraine. D'abord, il redit que son homologue ukrainien Zelensky est illégitime, son mandat a expiré, et il rappelle qu'en 2022, Zelensky a fait voter un décret interdisant de discuter avec la Russie tant que Poutine sera au pouvoir. Pas question, donc, dit-il, de parler directement au président ukrainien. C'est tout sauf une surprise. Comment imaginer Poutine et Zelensky à la même table de négociation ? Mais au moins, c'est formulé clairement. Vladimir Poutine précise qu'il choisirait des hommes pour parler directement à Zelensky.
Et Poutine envoie aussi par ailleurs des messages à Trump.
Oui, il applique en fait la même stratégie que Zelensky. On en parlait la semaine dernière, Fabienne. Flatter Trump, ne surtout pas se fâcher avec ce nouvel acteur du conflit qui promet une paix prochaine. Poutine a fait deux sortie remarquée la semaine dernière. D'abord le jour de l'investiture de Trump pour saluer le courage dont a fait preuve l'Américain lors de la tentative d'assassinat dont il a été victime en juillet. Et vendredi dernier, surtout, pour qualifier ses relations avec le milliardaire de professionnel et pragmatique. Il voit en Trump un homme intelligent. En prime, Poutine estime que l'élection de 2020 lui a été volée et confirme qu'il n'y aurait sans doute pas eu de guerre en Ukraine avec Trump à la Maison-Blanche, n'en jetez plus.
Mais pourtant, Trump menace la Russie désormais.
Ben oui, le président américain n'exclut pas de prendre de nouvelles sanctions contre Moscou si Poutine ne fait rien pour parvenir à la paix. Mais le russe, donc, évite la confrontation. Il se place d'égal à égal avec Trump, deux dirigeants de grande puissance. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, affirme régulièrement que la Russie est prête au dialogue. Un dialogue entre géants, dont la guerre en Ukraine ne serait qu'un chapitre parmi d'autres. Poutine a plusieurs fois indiqué qu'il était disposé à reprendre des discussions stratégique sur le contrôle des armes nucléaires, par exemple. Le président russe ne veut surtout pas donner l'impression qu'il est contraint à négocier.
Mais est-ce que Poutine est vraiment en position favorable ?
Alors, il aurait des raisons de vouloir en finir avec la guerre en Ukraine. La Russie, vous le savez, a perdu des centaines de milliers d'hommes. Elle rencontre des difficultés pour recruter. L'économie montre des signes de faiblesse, même si Moscou est parvenu à contourner les sanctions. Forte inflation, taux d'intérêt très élevé, faiblesse du rouble. Mais au fond, la thèse d'un Poutine inquiet, acculé à des négociations, ne tient guère la route. Son armée continue à grignoter du terrain en Ukraine. L'économie de guerre tourne à plein régime et le président russe est de toute façon allé trop loin pour reculer. Ses intentions sont assez claires. Conserver le territoire déjà conquis, environ 20% de l'Ukraine, et s'assurer, Trump est déjà d'accord sur ce point, que l'Ukraine n'intègre pas l'OTAN. Poutine espère même sans doute obtenir d'autres concessions. De quoi arriver très confiant à une table de négociation.
Franck Madvon, merci beaucoup. Vous reviendrez demain. Le mercredi, c'est du cinéma et c'est Corinne Pellicier.
Moteur. France Inter. And the Oscar goes to... Un jour dans le monde.
Voici un générique que les amateurs de films d'horreur connaissent bien. Le retour ce mercredi du Festival de Gérard. Mais jusqu'à dimanche, les deux pieds dans la neige pour découvrir ce qui va buzzer dans les prochains mois au rayon frisson. Avec des avant-premières, des conférences, une compétition et un focus cette année sur la vie aurore. Nouvelle tendance qui est, paraît-il, sur toutes les lèvres.
La vie aurore avec un V pour Vietnam. Destination de cinéma restée longtemps confidentielle sous la coupe soviétique, quasi invisible en Europe et qui depuis une vingtaine d'années s'émancipe grâce à l'arrivée d'investisseurs privés venus de Corée du Sud pour la plupart, baignés d'un univers cinéma ultra-violent. Le maillage des salles au tournant des années 2000 a aussi été multiplié par 10. On est passé d'une centaine d'écrans à plus d'un millier, avec pour conséquence l'émergence d'une nouvelle vague de réalisateurs décomplexés, amateurs de genre, comme Lee Bing-jiang, qui arrive à Gérardmer avec un film tourné en 2016. Ça s'appelle KFC. C'était son tout premier long-métrage.
Em uống coca pha với Pepsi được nào chưa? Ngon lắm đó.
Un certain goût pour l'extrême, des images insoutenables de torture, de mutilations ultra réalistes, du gore premier degré et même du malsain. Plus, pourtant, Li Binjiang n'est pas forcément parti à 35 ans pour se cantonner au genre de l'horreur. Ce qui l'intéresse avant la forme, c'est le fond, un film en forme ici de métaphore de notre société.
Pour lui, ce film, c'est très extrême et c'est aussi pour montrer comment le film cinéma horreur au Vietnam et puis présenter notre image, notre culture vietnamienne. C'est aussi une métaphore pour dire que dans notre société aujourd'hui, tout est très rapide. Par exemple, le fast-food, le fast-fashion. Et un jour, ça devient très dangereux pour la société. C'est aussi une métaphore. Le côté très noir de l'humanité, quand on n'a plus rien à manger, on va se manger l'un et l'autre.
Et ben voilà, sympathique échantillon, Corinne, de ce qu'on va pouvoir découvrir à Gérardmer à travers ce programme spécial donc de Vie Horreur. Trois films vietnamiens au programme qui devraient beaucoup intéresser les distributeurs qui viennent d'ailleurs souvent à Gérardmer faire leur marché.
Il faut savoir pour commencer que beaucoup de ces films ne sortiront pas au cinéma. Ça reste un marché de niche où la plupart débarquent en DVD. C'est le cas du film de Li Binjiang, KFC, qui a eu son petit succès avant le Covid, distribué en France par Spectrum Films, dont le directeur Antoine Guérin est très attentif aux modes, aux tendances, aux nouveautés venues d'Asie, avec leur identité, leur folklore, leur critique de la société patriarcale. Et en la matière, la vie aurore, encore frémissante, l'intéresse beaucoup.
Il faut être attentif, il se passe beaucoup de choses en Asie, dans le cinéma de genre. Déjà, il y a une vraie puissance de la jeunesse au Vietnam, avec des gens qui aiment le cinéma de genre, plus de salles de cinéma qu'avant. Il y a eu des investissements qui ont été faits. Toutes ces effervescences-là, il faut l'avoir à l'œil, et c'est pour ça que lorsque les festivals font tout ce travail de dénichage, c'est super. Du Vietnam, il y a un folklore qui est complètement dingue, qui est énorme, des histoires de fantômes, d'esprits, de maisons hantées, une représentation en fait de l'au-delà souvent, qui est vraiment différente. Puis c'est des productions qui coûtent pas forcément très très cher, donc qui sont tournées assez vite, qui sont rentabilisées finalement facilement, tout ça est très attractif. KFC, au-delà du côté extrême du film, j'ai été surpris par les différentes qualités techniques et de la maturité. Au départ, c'était un projet de fin d'études. C'est encore les premiers frémissements de l'exportation de ces films-là.
Les films que l'on va découvrir dans le cadre du festival cette semaine ne sont pas tous récents, mais offrent en tout cas un panorama assez large de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché de l'horreur au Vietnam. Parmi eux, Crimson Snout de Lu Thanh Luan, qui trouvera peut-être à Gérardmer un distributeur pour les écrans français. Il est le premier film d'horreur vietnamien à avoir dépassé le million d'entrées.
Je crois que quelqu'un a eu très très mal. Très très mal. Le festival de Gérardmer, 32e édition, c'est jusqu'à dimanche. Corinne Pellissier, joyeux festival. Merci beaucoup.